Les 8h01. Il y en a une ce matin, la dernière ligne droite pour le décret qui fâche les enseignants.
Il a été adopté en commission, il devrait l'être bientôt en plénière. De toute façon, cela ne changera rien. La fin d'année sera perturbée dans les écoles. Selon les établissements, les élèves passeront leur épreuve certificative ou alors ils n'auront pas d'examen ou alors seulement ceux qui comptaient sur les examens pour sauver leur année. C'est un peu la même idée que les Britanniques qui voulaient envoyer leurs migrants illégaux au Rwanda. Un accord a été trouvé pour que les pays membres de l'Union puisse créer des centres en dehors de l'Union ou expulser les demandeurs d'asile déboutés. Les Diables Rouges affrontent la Croatie ce soir en amical, moins de deux semaines avant leur début en Coupe du Monde.
La météo avec Denis Collard.
Journée en deux temps avec quelques averses entrecoupées d'éclaircies ce matin et puis à nouveau de bonnes averses, parfois ponctuées de coups de vent et de coups de tonnerre cet après-midi. On attend de 18 à 21 degrés.
Et c'est François Kirsch qui vous présente votre journal de 8h. Bonjour François.
Bonjour.
Cette nuit, le fameux décret-programme contesté par le monde enseignant a été adopté en commission du Parlement de la Fédération à Bruxelles.
La suite logique, c'est son adoption en séance plénière cette semaine ou la semaine prochaine. La fin du parcours législatif, mais cela ne devrait pas éteindre. Peut-être même l'inverse, le mouvement de protestation dans les écoles. Quoi qu'il en soit, l'organisation des examens de fin d'année risque d'être chamboulée, François Corbiot.
À l'Athénée Maurice d'Estonnet à Liège, les examens n'auront pas lieu, mais les élèves seront tout de même évalués. Thierry Gilles, directeur adjoint.
Mais il est évident que vu les circonstances, il y a peut-être un stress qui s'est installé. Donc on ne se basera pas uniquement sur les examens. Il y a eu des évaluations quand même qui ont été faites tout au long de l'année. Et on peut se baser bien évidemment sur ces évaluations-là.
Pour Elsa Roland, chargée de cours en sciences de l'éducation à l'UNAMUR, il n'y a pas lieu de dramatiser cette absence d'examen.
Ces examens en fin d'année, a priori, c'est plutôt des examens qu'on appelle certificatifs, donc qui vont permettre de sanctionner l'élève, mais ce n'est pas quelque chose qui va lui permettre d'en savoir plus sur où il en est dans ses apprentissages, dans ses difficultés, dans les obstacles qu'il rencontre, etc. Parce qu'il faut bien savoir que généralement, il n'y a aucun retour sur ces évaluations aux élèves.
Autre école, autre approche, au centre scolaire Ma Campagne à Bruxelles, des examens seront organisés pour les élèves en difficulté. Charles Navet, son directeur.
L'élève qui est en situation d'échec actuellement devait pouvoir compter sur l'examen de fin d'année pour pouvoir se rattraper. Et donc on ne pouvait délibérément pas se dire qu'on arrêtait l'année maintenant en termes de points. Et en vue de ces examens, il y a des séances de remédiation.
De quoi permettre aux élèves en difficulté de ne pas être trop pénalisés par la situation.
François Corbiot avec Stéphanie Lepage. Concernant les épreuves certificatives externes, CEB, CE1D, CESS, jusqu'à nouvel ordre, elles seront bel et bien organisées.
Le trafic aérien était à l'arrêt cette nuit.
Oui, suite à un mouvement de grève spontané des contrôleurs aériens de Skies dans le cadre de négociations entre représentants du personnel et direction concernant le futur centre de contrôle numérique de Namur. Le trafic a repris à l'aéroport de Zaventem. Il ne reprendra pas avant 9h30 à Charleroi et Liège, ce qui implique dans tous les cas pour tous les aéroports retard et ou annulation. Renseignez-vous si vous devez prendre l'avion ce matin. Les habitants de Jemeppe-sur-Sambre et d'Auvelais et Velaine-sur-Sambre dans l'entité de Sambreville pourraient retrouver une eau du robinet potable demain matin. Les habitants de Nivelles risquent de devoir attendre encore plusieurs jours. En attendant, la distribution d'eau potable par camion-citerne se poursuit. Il s'agit toujours des conséquences des intempéries de ce week-end, alors que des orages, sachez-le, seront de retour cet après-midi.
Le secteur de la construction tourne au ralenti en Wallonie.
Le nombre de permis de bâtir a baissé de plus de 30% au cours des 5 dernières années. La demande est en baisse donc, et ce qui n'arrange rien, ce sont les procédures administratives sous format papier qui sont fastidieuses. Certaines entreprises bloquées dans l'attente de la délivrance de permis doivent même parfois licencier du personnel, vous allez l'entendre. Le gouvernement wallon vient de lancer un plan pour informatiser enfin les procédures et réduire les délais d'attente. Cédric Loriot.
Ici, le CLT, ce sont des panneaux pleins qui sont pré-usinés.
Patrick Jean-Marc dirige une société spécialisée dans les constructions en bois nouvelle génération. Son carnet de commandes est bien rempli pour les prochains mois, mais la lenteur et la lourdeur administrative pour obtenir des permis d'urbanisme est devenue telle qu'il a dû licencier du personnel.
Sur les 6 derniers mois, nous avons dû nous séparer de 9 collaborateurs sur 29 parce que les permis ne tombent pas. On n'a plus de travail à offrir à nos ouvriers. Alors, lorsque ces permis retomberont, bien sûr, sûr, on va reconstituer nos équipes, mais en attendant, on s'en a dû séparer de nos collaborateurs et on n'aurait pas dû.
Pour éviter ces aberrations, les démarches vont être informatisées, dématérialisées en Wallonie. François Deken, ministre wallon de l'aménagement du territoire.
À partir de ce lundi, dans 20 communes, 10 en Hainaut et 10 dans le Namurois, les permis ne seront plus traités que de façon dématérialisée, c'est-à-dire par informatique. Donc l'objectif, il est d'alléger la procédure, de simplifier tous les éléments matériels, puisqu'il ne faut plus déposer X exemplaires, un seul fichier informatique suffit.
L'objectif est que tout soit informatisé dans 2 ans. Environ 25 000 permis d'urbanisme sont délivrés chaque année en Wallonie.
Le gouvernement fédéral a entamé ses discussions budgétaires. Le Premier ministre veut un accord pour le 21 juillet, mais les centristes de la coalition ont déjà indiqué qu'il n'était pas question pour eux de se laisser enfermer dans un calendrier. Les négociations ne seront pas faciles. Il faut trouver près de 7 milliards d'euros au moins, Fabien Vanekout.
Oui, 6,7 milliards d'euros à trouver d'ici 2029, c'est le chiffre sorti de la note distribuée en gouvernement vendredi. Mais ce ne serait là qu'un chiffre toujours provisoire, la situation budgétaire globale restant trop instable, conflit au Proche-Orient et inflation. Ce mardi, le bureau du plan doit donner quelques recommandations après avoir sondé des experts à la demande du gouvernement. Mais il faudra encore attendre le 6 juillet et le rapport du comité de monitoring pour évaluer définitivement l'ampleur de l'effort. À partir de là, les pistes de réforme ou d'économie pourront ressortir des tiroirs des partis, mesures pour plus de contrôle des malades de longue durée ou de la gestion des mutuelles, hausse possible du ticket modérateur, la part à charge du patient. On pourrait même reparler dépenses de défense que CDNV et Voreuth voudraient limiter. Le sujet des hausses de TVA devrait revenir aussi à l'ordre du jour, décidé en novembre, recalé par le Conseil d'État et dont le MR ne veut toujours pas. Bref, de nombreux sujets de friction en perspective pour la cohésion de la majorité. Arizona.
Les microbiotes, ces milliards de bactéries qui protègent notre intestin, c'est le domaine d'étude de l'équipe du chercheur Patrice Cagny, professeur à l'UC Louvain. Il reçoit aujourd'hui le prix Francky, sorte de Nobel belge. Il consacrera l'argent de ce prix à un nouveau projet de santé publique. Il veut savoir ce que nos microbiotes racontent grâce à une analyse de nos selles. Joanne Monté.
Notre intestin est un sacré lascar. Il contient 100 000 milliards de bactéries. C'est notre microbiote, une barrière protectrice quand elle est en forme. Elle dialogue en ligne directe avec notre cerveau. En Flandre, un projet scientifique étudie le microbiote des néerlandophones, idem en France. Mais pour les francophones, mystère, on ne sait pas ce qu'ils ont dans le ventre. Patrice Cagny, professeur à l'UC Louvain et chercheur au Well Research Institute, veut le découvrir.
Et le but est de pouvoir, un jour en tous les cas on l'espère, en ayant appris la composition microbiote intestinale de ces personnes, leur santé mentale, leur alimentation, de retourner évidemment vers elle, ce qui ne se fait pas dans les autres initiatives ailleurs dans le monde, et pouvoir donner également à nos pouvoirs locaux et à nos spécialistes en santé publique des outils pour pouvoir intervenir.
L'équipe compte s'appuyer sur des maisons médicales, des pharmacies ou des CPAS pour toucher un public qui ne se retrouve généralement pas dans les études. Le projet devrait, si tout va bien, démarrer en 2027.
L'Union européenne durcit sa politique migratoire.
Un accord a été trouvé entre le Parlement européen et les États membres pour accélérer les expulsions de migrants illégaux. Comment ? En permettant aux pays qu'ils souhaitent de construire des centres en dehors de l'Union où envoyer les personnes dont la demande d'asile a été rejetée, Boris Vanaken.
Et la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, s'est félicitée du compromis trouvé qui permettra un retour plus rapide et plus cohérent des migrants, peut-on lire sur X. Le texte prévoit des mesures renforcées comme des visites domiciliaires et des sanctions sévères en cas de refus de quitter le territoire européen. Cela peut inclure la saisie de documents d'identité, mais aussi la détention de familles avec enfants et une interdiction de retour dans l'Union européenne portée à 10 ans, voire 20 ans dans certains cas. Plus de 200 ONG dénoncent un texte contraire aux droits fondamentaux. L'eurodéputé belge écologiste Saskia Brikman compare ces futures dispositions aux méthodes de l'ICE, la police de l'immigration américaine.
Ça fait totalement écho à ce qui nous a choqué il n'y a pas si longtemps que ça côté européen, les pratiques de l'ICE, hein, le bras exécutif de la politique migratoire de Trump et qui expulse allègrement les personnes concernées par ces retours, ces expulsions du côté européen vont aussi voir leurs droits fondamentaux allègrement violés.
Certains pays ont été cités lors de discussions précédentes pour expulser ces personnes comme le Rwanda, l'Ouganda ou encore l'Ouzbékistan. Mais ces échanges restent secrets. En attendant, le texte doit encore être validé par les institutions européennes. Un vote final est attendu d'ici début juillet.
C'est une majorité de centre-gauche qui dirigera le Danemark. La première ministre sortante, Mette Frederiksen, a annoncé un accord de coalition. Elle va donc entamer un troisième mandat à la tête du gouvernement danois. Grosse attaque russe tôt ce matin en Ukraine. Des missiles et des drones se sont abattus sur Kiev, Dniepro ou Kharkiv. Un immeuble résidentiel de 24 étages a été touché et s'est effondré à Kiev, selon le maire de la capitale ukrainienne. Ces attaques russes ont fait au moins 9 tués en Ukraine et des dizaines de blessés.
L'Italie en fête aujourd'hui. Le pays célèbre le 80e anniversaire de la naissance de la République.
Avec une parade militaire et une fête populaire, l'occasion aussi de tenter de renforcer les liens entre les Italiens et leurs institutions à Rome. Valérie Dupont.
Malgré les nombreux vestiges qui témoignent de sa très longue histoire, l'Italie sous sa forme actuelle est l'un des États les plus jeunes d'Europe. Aujourd'hui, les Italiens célèbrent le référendum du 2 juin 1946. Un peuple entier a finalement pu parler, affirmer la radio à l'époque, pour souligner qu'après 20 ans de fascisme, les 28 millions d'Italiens, dont 13 millions de femmes qui votaient pour la première fois, ont choisi de remplacer la monarchie par la République. Mais 80 ans plus tard, les Italiens sont méfiants envers leurs institutions. Si 62% disent avoir confiance dans le président de la République, l'indice de confiance dans le Parlement tombe à 26%. Gian Maria Faria, sociologue et politologue.
Les Italiens se sont éloignés de leurs institutions quand ils ont compris que malgré leur vote, malgré l'indication d'une direction de marche du pays, la classe politique marchait en sens contraire.
Il faut dire que depuis 1946, les Italiens ont vu défiler 69 gouvernements et de nombreux scandales politiques. Alors pour tenter de renforcer le lien entre les Italiens et leurs institutions, le président a lancé une grande initiative. Chaque citoyen peut envoyer une vidéo pour dire ce que représente pour eux la République. L'initiative durera toute l'année, de quoi former le tableau contemporain des visages de la République italienne.
Dans moins de 2 semaines, les Diables Rouges joueront leur premier match à la Coupe du Monde américaine. Ce soir, pour se mettre en jambes, l'équipe belge affronte en amical la Croatie, une grande équipe. Les Diables ont voulu un adversaire sérieux, Manuel Jousse.
Oui, on peut parler d'un test important pour les Diables Rouges face à la 11e nation mondiale, finaliste de la Coupe du Monde 2018 et qui traîne encore, elle aussi, quelques glorieux rescapés de sa génération dorée. Pour les Diables, l'objectif sera surtout de se rassurer à une semaine du grand départ pour les États-Unis, se rassurer quant à l'état de forme des uns et des autres, mais aussi se rassurer par rapport à certaines positions clés. On le sait, il est beaucoup trop tôt pour imaginer Romelu Lukaku réendosser son rôle de buteur. Charles de Ketelaere devra donc poursuivre sa mission de dépanneur ou Mathias Fernandez Pardo entamer la sienne, entouré d'un énorme voile de curiosité. Quant au secteur défensif, déjà mis à mal ces derniers mois, il devra apprendre à se débrouiller sans Zeno De Bast, blessé au plus mauvais moment, alors qu'il commençait à s'installer comme patron et dont le retour n'est pas prévu minimum avant le 3e match de poule contre la Nouvelle-Zélande.
Croatie-Belgique, match amical à suivre sur les médias de la RTBF à partir de 18h. Les Diables qui joueront encore une dernière rencontre, toujours amicale, samedi contre la Tunisie et puis ils s'envoleront vers les États-Unis. À Roland-Garros, l'affiche de la soirée d'hier entre Arina Sabalenka et Naomi Osaka a tourné à l'avantage de la numéro 1 mondiale de tennis. Sabalenka s'est qualifiée en 2-7-7-5-6-3 ce mardi, place au premier quart de finale. Enfin, sachez que Serena Williams va faire son retour sur le circuit. La semaine prochaine, la joueuse américaine de 44 ans va participer au tournoi du double du Queens en Angleterre. Serena Williams qui n'a plus joué depuis l'US Open de 2022.
Merci beaucoup François Kirsch pour ce journal.